Alors, comme je vous le mentionnais avant de se quitter pour la pause, c'est ce soir à Atlanta que sera présenté le concours de coups de circuit du baseball majeur, qui est très certainement mon épreuve favorite. Toute compétition de match des étoiles confondue, ça sera présenté sur les zones de TVA Sports. Et d'ailleurs, on s'en va sur place à Atlanta rejoindre le collègue Denis Cazavant. Salut, Denis.
Hey, salut, JP.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, t'es-tu excité pour ces festivités du match des étoiles?
Oui, c'est la seule chose, c'est que ça va être extrêmement chaud. D'ailleurs, on nous annonce chaleur intense aujourd'hui à Atlanta, avertissement de chaleur intense. On dit que le mercure va atteindre en après-midi, avec l'humidex, 40 degrés Celsius. Alors, ça promet, j'ai très hâte d'être en habit sur le terrain. À 4 heures cet après-midi.
En habit foncé ou en habit pâle, là?
Là, c'est pas mal bleu foncé, mon affaire. Fait que, non, c'est ça, ça va être intéressant. Mais non, blague à part, là, c'est sûr qu'à part la chaleur, évidemment, quand tu es à Atlanta au mois de juillet, tu t'attends à de la chaleur. Mais ça risque d'être une très belle compétition ce soir et aussi un match des étoiles très intéressant demain.
Là, tu vas me dire que t'es biaisé parce que c'est toi qui le présente ce soir, mais tu sais, quand on pense à tous les concours d'habileté là, des matchs des étoiles, tous sports confondus, es-tu d'accord avec moi que c'est celui qui est le plus spectaculaire et le plus crédible aussi, dans le sens où la balle qui est vraiment frappée à 425 pieds du marbre, il n'y a pas de fantaisie autour de ça, là, tu sais?
Non, c'est sûr que c'est. Je pense que ce que le baseball majeur a toujours bien fait, c'est justement ça. C'est le concours des circuits et la formule du match des étoiles qu'on n'a vraiment jamais changé au fil des années. Ça a toujours été la Ligue américaine contre la Ligue nationale. Les seuls changements qu'on a fait à un moment donné, il y avait l'enjeu du match où l'équipe qui gagnait, la Ligue qui gagnait avait l'avantage du terrain. Ça, on l'a retiré depuis quelques années. On est revenu juste à. C'est un match hors concours, c'est un match d'exhibition où on retrouve les meilleurs joueurs. Puis pour le concours de circuit, je suis d'accord avec toi. Tu sais, au hockey, moi, je pense que les gens apprécient beaucoup les épreuves de vitesse, les épreuves du le lancer le plus puissant et les quatre cibles dans les quatre coins. Ça, on aime ça, voir ça au hockey. Mais le concours de circuit, ça demeure, tu sais, de frapper la balle à 400 pieds. Même si c'est un lanceur de pratique au bâton, même si la balle arrive à 65-70 000 à l'heure, c'est quand même très intéressant comme compétition.
Là, cette année, là, il y a bien sûr 8 participants, là, mais notamment Cal Raleigh qui mène le baseball majeur avec le plus grand nombre de coups de circuit. Junior Caminero qui est quand même un joueur intéressant. On a ajouté Josh Chisholm au lot. Ça, je pense que c'est un choix du commissaire là, pour ajouter peut-être une vedette de plus. Es-tu satisfait avec les candidats qu'on présente pour la compétition ce soir?
Ben, c'est sûr qu'à chaque année, on aimerait avoir les meneurs. T'sais, on a 5 frappeurs de 30 circuits au match des étoiles, qui est quand même un nombre assez élevé, avec Cal Raleigh qui domine avec 38 pour les Mariners de Seattle, qui connaît toute une saison. Alors ça, c'est intéressant que Raleigh a accepté de participer au concours des circuits, parce que c'est le meneur au match des étoiles, alors ça te prend ton meilleur frappeur de circuit dans la compétition. Oui, on aimerait avoir Aaron Judge et Shohei Ohtani, mais faut comprendre aussi que les joueurs ne peuvent pas participer à chaque année. Il faut varier. Il y a des joueurs qui veulent sauter leur tour à l'occasion. Si on pense à Pete Alonso qui a participé souvent. Vladimir Guerrero l'avait gagné il y a 2 ans. Donc, on peut comprendre qu'à l'occasion, les joueurs disent « Moi, je vais aller juste pour m'amuser, de participer au match et de regarder le concours des circuits parce que c'est quand même très exigeant. » Tu sais, je parlais tantôt de la chaleur, mais là, tu sais, tu parles en première ronde là, de 40 lancés, c'est 3 minutes. Alors, 3 minutes à t'élancer, à tenter de frapper la balle à 400 pieds, à faire face à un maximum de 40 lancés, c'est quand même très exigeant. Et ensuite, si tu avances en demi-finale et en finale, l'événement se poursuit. Alors, je comprends qu'il y a des joueurs qui décident de peut-être sauter leur tour à l'occasion. Mais quand on regarde, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a ajouté des jeunes joueurs. Quand on pense à James Wood des Nationals de Washington, seulement 22 ans, ça va être un des plus jeunes joueurs à avoir participé au concours des circuits. Et lui, présentement, il connaît une très bonne saison avec 24 circuits. Tu as parlé de Junior Caminero tantôt. Alors, on a un mélange de vétérans, de jeunes joueurs. On a un joueur local aussi, en Matt Olson des Braves d'Atlanta, qui lui remplace Ronald Acuña Jr., qui est malheureusement blessé, petite blessure au dos qui l'empêche de participer au concours des circuits. Alors, je pense qu'on en a finalement pour tous les goûts. Et il y a toujours un joueur qui nous surprend souvent lors des concours de circuits, un joueur qu'on ne s'attend pas, qui va peut-être voler la vedette.
La formule a quand même changé un petit peu au cours des dernières années. Peux-tu nous rappeler la formule pour ce soir, Denis?
Oui, ce qu'on fait maintenant, c'est on est revenu en première ronde, les 8 participants vont avoir le droit, c'est comme je le mentionnais tantôt, c'est soit 3 minutes ou 40 lancés maximum. Donc, si vous avez 40 lancés avant le 3 minutes, c'est terminé aussi. Et là, on va déterminer après les 8 participants, ce sont les 4 meilleurs qui passent en demi-finale. Et lorsqu'on arrive en demi-finale, là, on y va avec 1 contre 4, 2 contre 3. Là, c'est un concours de, on recommence à zéro, et c'est lequel des deux joueurs va frapper le plus de circuits. Et là, on tombe à 2 minutes et 27 lancés. Et en finale, c'est la même chose aussi. On revient avec les deux gagnants des demi-finales. Et c'est 2 minutes ou 27 lancés pour la ronde finale. Alors, c'est le petit changement qu'on a apporté après la victoire de Guerrero. Au lieu de toujours avoir le total de circuits, on recommence à zéro en demi-finale.
Hey, écoute, tu parles de fatigue, là. Le record là, appartient à Giancarlo Stanton et Vladimir Guerrero. 91 circuits au cours de... Là, quand t'accumules, là, puis t'additionnes toutes les... Hey, 91 circuits, là! T'imagines-tu le gaz que tu gaspilles, pareil, à en frapper autant?
Ouais, puis ça, c'est sans compter les balles qui tombent à la piste d'avertissement, les balles que t'as frappées qui ont donné contre la clôture, tu sais, fait que c'est pas une petite pratique au bâton normale, là. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'élan. C'est pour ça que je mentionnais, c'est exigeant. On sait, dans le passé, il y a des joueurs qui disaient que ça avait peut-être nuit à leur performance en deuxième moitié de saison parce que là, on avait un petit peu modifié notre élan pour le concours des circuits. Alors, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte également. Il y a des joueurs qui... moi, j'ai vu des vidéos au cours des derniers jours. Il y a des joueurs qui se pratiquent aussi, là. J'ai vu O'Neill Cruz, Jazz Chisholm. Il y a des joueurs, justement, qui en ont profité au cours des derniers jours pour se pratiquer en vue du concours des circuits. Alors, faut se préparer. Là. C'est pas juste arriver aujourd'hui à 8 heures puis dire « OK, parfait, je suis prêt », puis on se lance.
Puis ça te prend le bon lanceur aussi. Tu sais, des fois, c'est un membre de l'équipe, mais des fois, c'est un parent aussi. Je me rappelle, il y a une couple d'années, il y avait des papas qui lançaient pour leur fils.
Oui, il y avait le père de Robinson Cano, souviens-toi, qui lui lançait la fameuse pratique au bâton. Ce soir, justement, Cal Raleigh avait dit que c'est son père qui va être le lanceur et c'est son jeune frère qui va être le receveur.
Oh, wow.
Alors, ça va être une affaire de famille. Alors, le père de Cal Raleigh va lui lancer la pratique au bâton et il y a un frère plus jeune qui joue au baseball aussi qui va être le receveur. Alors, ça va être une belle histoire de famille là, pour le joueur des Mariners.
Ah, c'est cool. Hey, Denis, toi et moi, on est un petit peu old school comme type de gars. Là. Nous autres, on est des gars assez, assez classiques. Je me rappelle l'année dernière, il me semble sur Twitter, t'avais commenté les uniformes un peu particuliers du match des étoiles, puis toi, t'aimais ça comme c'était dans le temps, là, c'est-à-dire qu'on portait l'uniforme de notre équipe, là, t'sais, fait que c'est la nationale qui reçoit, la nationale joue en blanc, puis l'américaine joue en foncé. Qu'en est-il des uniformes cette année?
On revient. On a eu gain de cause avec
nos tweets.
Avec nos remarques puis nos tweets, c'est ça. Je suis sûr que ça a eu beaucoup d'impact sur le baseball majeur. Non, mais on revient à la formule. Tu sais pourquoi c'est important, selon moi, d'avoir le chandail de ton équipe? Tu peux avoir une casquette du match des étoiles. Tu peux avoir des choses identifiées, match des étoiles. Mais moi, je me souviens, quand on était jeune, on avait la présentation des joueurs, de voir le joueur de ta ville avec l'uniforme des Expos ou l'uniforme des Pirates de Pittsburgh. Tu sais, il y a des équipes qui sont représentées évidemment par un seul joueur. Alors, de voir le joueur avec l'uniforme de ton équipe sur le terrain lors de la présentation des joueurs, pour moi, c'est important. Alors, au lieu d'avoir des uniformes de balle molle, comme on avait fait dans les dernières années, on revient avec le look traditionnel. Je pense que pour le concours des circuits, on a un chandail spécial, mais pour le match des étoiles qui sera présenté mardi soir, on va avoir l'uniforme de notre équipe. Alors, ça c'est une bonne. Très bonne décision du baseball majeur de revenir à cette formule.
Quand tu parles de la fierté de voir nos joueurs porter notre uniforme, là, on dirait que j'avais en tête la photo des Expos au match des Étoiles de 82 à Montréal, alors qu'on avait cinq représentants.
C'est ça, quand tu vois les cinq joueurs, un à côté de l'autre, puis le gérant Jim Fanning aussi, c'était spécial là, de voir autant d'uniformes des Expos en 94 aussi, lorsque il y avait plusieurs joueurs des Expos qui avaient représenté l'équipe au match des Étoiles. Alors c'est non, pour moi c'est intéressant. Quand tu regardes des façaillants des matchs des Étoiles, c'est plaisant de voir des joueurs dans leur uniforme au match des Étoiles et non pas un chandail là, que ce soit un chandail créé par le baseball majeur. Alors je pense que ça, c'est une bonne idée de marketing de revenir aux uniformes traditionnels.
Je vous rappelle qu'on est avec Denis Cazavant qui est sur place à Atlanta. Denis, pendant que t'es à Atlanta, il y a également le repêchage du baseball majeur qui se déroule à Atlanta. Tout le monde est rassemblé. Je ne sais pas si tu as eu la chance de suivre un petit peu ce qui se passe, mais on a un Québécois, Charles Davalan, qui a été repêché hâtivement au 41e rang par les Dodgers.
Oui, j'ai vu ça passer hier. Le premier tour était présenté d'ailleurs sur les ondes de MLB Network hier soir. Alors, oui, c'est intéressant de voir qu'on a un Québécois qui a été repêché par les Dodgers, qui évolue à l'Université de l'Arkansas, un gars de Saint-Bruno de Montarville. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir des Québécois maintenant qui sont repêchés quand même. Tu sais, quand tu es dans les 50 premiers, il faut expliquer aux gens que le repêchage du baseball majeur, c'est quand même, il y a toute une, il y a un bassin de joueurs assez impressionnant parce qu'on parle de joueurs qui jouent dans des high school américains à l'école secondaire. Et si le joueur a terminé l'école secondaire et qu'il est dans les rangs universitaires, on doit attendre à sa troisième année dans les rangs universitaires. Donc, on parle quand même d'un bassin de joueurs assez impressionnant là, entre les joueurs qui évoluent dans les high school et les joueurs qui jouent dans les rangs universitaires. Alors, d'être repêché dans le top 50, c'est quand même tout un exploit. Alors, non, félicitations et on va suivre maintenant sa progression dans l'organisation des Dodgers.
Et en plus, il y a un autre Québécois là, qu'on surveille au cours des prochaines heures, c'est Antoine Jean,
ouais.
Qui lui joue à l'Université de Houston, un lanceur gaucher qui avait déjà été repêché, mais qui a décidé d'aller à l'Université de Houston. Donc, il est redevenu éligible au repêchage. Alors, on s'attend lui aussi à ce qu'il sorte aujourd'hui.
Exactement. Alors, ça se poursuit aujourd'hui. Le repêchage se termine aujourd'hui. Cet après-midi, c'est conférence de presse avec les joueurs qui participent au match des Étoiles. Il y a un tapis rouge par la suite et il y aura bien sûr le concours des coups de circuit ce soir. Avec, ça va être quand même assez spectaculaire là, la présentation des joueurs et ainsi de suite. Ce qu'on a eu comme avant-goût, je pense que ça va être assez spectaculaire. Alors ça devrait commencer juste après 20h officiellement la présentation des joueurs, mais nous, on sera en onde à 19h30 pour une émission d'avant-match.
Ben, tu peux être certain que je vais être rivé à mon téléviseur.
T'as-tu un choix?
C'est sûr que Cal Raleigh, c'est dur d'aller contre lui, mais tu vois, je faisais le match des Rays contre les Dodgers jeudi, puis Junior Caminero n'a quasiment sorti une du Fenway Park. Alors, si j'avais un wild card à mettre, là, ça serait probablement Junior Caminero des Rays de Tampa Bay.
Moi, j'ai hâte de voir parce que c'est la première fois que je vais au Truist Park, le domicile des Braves. Je sais pas s'il y a avantage frappeur gaucher, frappeur droitier, parce que je regarde, on a 4 frappeurs gauchers, on a des frappeurs droitiers et on a un frappeur ambidextre. Alors, est-ce que le stade avantage les frappeurs gauchers? Si c'est le cas, peut-être que Matt Olson, James Wood, O'Neill Cruz pourraient en profiter. J'ai hâte de voir Cal Raleigh. Je me souviens, il y a 2 ans, on avait Adley Rutschman, qui était également un frappeur ambidextre. Et il alternait, prenait des élans du côté gauche et ensuite prenait des élans du côté droit pour pas se reposer, mais c'est pour changer un petit peu son élan, ne pas s'élancer seulement du même côté.
Ouais.
Alors j'ai hâte de voir si ça va être la même chose pour Cal Raleigh ce soir.
Ben c'est ce qu'on verra à côté de 19h30. Denis, un gros merci pour ton temps. C'est super le fun de t'avoir en entrevue. Puis on t'écoute autant ce soir que demain sur les ondes de TVA Sports.
Parfait, JP, merci beaucoup.
Merci, bonne journée à Atlanta. Bois de l'eau.
À Hot Atlanta.
Oui, exact. Alors voilà, Denis Cazavant qui est vraiment une sommité dans le domaine. J'étais vraiment content de l'avoir là, au fil du temps. Denis qui est devenu un ami, là, mais je vous lis sa messagerie texte. Là. Denis Cazavant est aussi bon au hockey qu'au football qu'au baseball. Moi, j'ai une petite affection pour Denis au baseball. Là. T'sais, moi, quand j'étais petit, c'était le descripteur des Expos. Fait que, moi, je le vois surtout comme un gars de baseball, mais il est bon dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a une couple de semaines, je ne sais pas si vous avez vu ça, il a décrit de la boxe avec son fils, oui. Mathieu Cazavant. Et on avait droit à un duel père-fils. Alors vraiment, Denis fait absolument tout.